messieurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez donc la chance d'accueillir un jeune chercheur qui a fait du chemin pour venir vous voir, parce qu'il vient d'Austin, au Texas. Mais il est français, il a fait sa thèse à Montpellier, donc vous voyez, il est bien français. Alors, pourquoi lui ? Pour les mêmes principes que je vous répète et que je ne cesse de répéter, c'est que quand vous cherchez un paléontologue, personnellement, je préfère chercher quelqu'un qui fait du terrain. Vous l'aurez compris, j'imagine. Si on veut étudier le comportement de nos cousins ou de nos frères, il faut essayer aussi d'avoir des collègues qui vont les voir dans leur milieu naturel. Damien Caillot est un de ceux-là, et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et vous allez avoir la chance de pouvoir en parler avec lui.
Merci. Le micro marche, tout va bien. Alors donc, si je suis ici, si j'ai voyagé 8000 km pour venir vous voir, c'est pour vous parler de l'évolution sociale chez les primates non humains. Alors vous avez, j'imagine que vous êtes auditeur fidèle de Michel Brunet ici, et vous avez probablement entendu beaucoup parler de primates humains ou préhumains. Moi, je vais vous parler de primates non humains et je vais vous expliquer et essayer de vous démontrer en quoi l'étude des primates non humains sur le terrain permet d'en apprendre plus sur nous et sur nos ancêtres disparus. Voilà, alors donc je m'appelle Damien Caillot, je travaille comme chercheur à l'Université du Texas à Austin depuis même pas un an. Avant ça, j'étais en Allemagne dans un institut d'anthropologie, j'ai fait ma thèse à Montpellier donc, et j'étudie l'évolution sociale. Pas seulement chez les primates, chez d'autres espèces, chez d'autres mammifères. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est ma thématique de recherche. Alors, j'imagine que je n'ai pas à vous expliquer, à vous présenter ces quatre primates. Alors, vous aurez tous reconnu ici, j'imagine, Lucie. Ici, c'est l'autre très beau fossile de préhumain, d'hominidé, probablement le fossile le plus complet avec Lucie. Le reste fossile le plus complet, Ardipithecus ramidus. Je ne vais pas faire l'affront à Michel de vous expliquer qui est ici. Et le dernier, c'est Australopithecus sediba, un de nos cousins anciens également. Alors donc, ces fossiles, on les trouve, on creuse et on les trouve en Afrique principalement. Et on apprend plein de choses sur nous. On apprend, on acquiert des renseignements sur notre anatomie, la façon dont on marchait, la façon dont on se déplaçait, éventuellement la façon dont on se reproduisait, si on regarde un peu le dimorphisme sexuel entre les squelettes, etc. On apprend évidemment beaucoup sur l'évolution de nos ancêtres, quels ont été les rameaux qui ont avorté, quels ont été les rameaux qui ont mené à vous ici ce matin. Et on apprend également beaucoup sur l'écologie alimentaire de nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils mangeaient. On peut l'étudier grâce à l'étude des fossiles. Il y a plusieurs moyens, évidemment, de l'étudier. Si on cherche un peu autour de ces fossiles, dans les sites où on les observe, alors je prends l'exemple d'Hardy. Voilà le site où Hardy a été trouvé. C'est un site de fouilles paléontologiques classiques, avec des trous partout. Et des chercheurs qui creusent. Et ils creusent tellement bien qu'ils trouvent d'autres fossiles. Ils trouvent notamment des restes fossilisés d'invertébrés. Alors vous voyez ici, je pense peut-être, si vous êtes éloigné, vous ne voyez pas très bien, c'est des fossiles de gastéropodes, principalement, et puis d'autres trucs. Voilà, donc on les trouve aux alentours des restes humains. Évidemment, on peut supposer que ces fossiles-là ont à peu près le même âge que les restes humains. Et si on regarde un peu à quelles espèces ils appartiennent, on peut en apprendre un peu plus sur l'environnement dans lequel vivaient nos ancêtres. On trouve également des restes fossiles de vertébrés. Voici plein de petits bouts d'os qui appartiennent à plein de vertébrés. Alors, c'est une science d'identifier tous ces restes osseux. Ce n'est pas du tout la mienne, alors je ne vais pas vous expliquer ça, mais c'est une spécialité de fourmis. Et on trouve même des végétaux. Alors, vous reconnaîtrez peut-être ici, c'est un petit peu difficile à voir, c'est un reste d'arbre, de tronc d'arbre. Ici, ce sont des phytolithes, c'est des restes de graminées, des petites herbes. Et ici, ce sont des graines fossilisées. Si on regarde ces graines, ces restes fossilisés de végétaux, on peut en apprendre encore plus sur l'environnement des hominidés disparus. Il y a bien une chose qu'on ne trouve pas, au milieu de tous ces fossiles, c'est des comportements fossilisés. Ça n'existe pas. Malheureusement, le comportement social en particulier, ne se fossilise pas. Comment peut-on l'étudier? Comment peut-on savoir quel était le comportement social? Dans quel type de société vivaient nos ancêtres? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Et pour commencer, on va essayer de définir ce que c'est qu'une société. Alors voilà, la société pour nous, c'est ça. Pour nous, hommes blancs, caucasiens, comme ils disent aux États-Unis, vivant depuis des lustres dans l'Europe de l'Ouest et depuis quelques centaines d'années en Amérique du Nord, la société, c'est vivre en groupe très très grand, tous ensemble, et chercher un grand chef. Voilà, le grand chef du monde, c'est Barack. Et voilà, pour nous, la société, c'est un petit peu ça. Alors, si on creuse un peu, c'est un peu plus compliqué que ça. La société, c'est également la justice. Alors, je vous présente ici une diapositive d'un procès qui n'est pas forcément un exemple de justice, mais c'est un procès néanmoins. Ah, pardon. Hop, c'est bon, il est revenu. La justice, ça consiste à punir les comportements égoïstes. D'accord ? Si jamais il y a un tricheur au sein de la société qui essaye de grappiller un peu plus que les autres au détriment des autres, eh bien, la société entière punit ces gens-là. Donc la société, les individus, nomment des gens au nom de la société qui punissent quelques individus en particulier. Donc si on regarde, si on s'intéresse à la justice, on aperçoit que la société, en fait, c'est une entité en elle, par elle-même. Ce n'est pas seulement la somme des individus mis tous ensemble. C'est vraiment une entité à part entière. Et la société ne se résume pas à la somme des individus qui la composent. Voilà, c'est le message essentiel. Et ici, c'est Galilée, qui donc a été jugé par la société. Une société qui n'était pas forcément à l'avantage des hommes et pas forcément du côté de la vérité à cette époque-là. Donc vous savez tous pourquoi Galilée a été jugé par l'Inquisition. Alors la société, c'est également la culture. Voici la bibliothèque d'Harvard aux États-Unis, très belle bibliothèque, où est entassé le savoir depuis des générations et des générations. Et enfin, la société, c'est Apple, c'est la technologie. Vivre en société, c'est mettre en commun des savoirs, des compétences, c'est être complémentaire et faire tous ensemble des choses qu'un individu ne pourrait pas faire ou que plein d'individus séparés ne pourraient pas faire. Je défie quiconque d'entre vous de vous mettre à votre établi et d'essayer de faire un iPad. C'est compliqué, il faut être nombreux pour le faire, je pense. Alors voilà, une définition d'une société. Alors j'aurais pu vous donner 20 définitions compliquées. On est en France, des dictionnaires, il y en a plein. On aime beaucoup écrire des dictionnaires, l'Académie française s'en charge très bien. Ils ne sont pas arrivés à la lettre S malheureusement, donc je n'ai pas pu prendre la définition du dictionnaire de l'Académie française. Alors j'ai pris la définition Caillot, la mienne. Très simple, une société, c'est un groupe d'individus vivant ensemble qui interagissent les uns avec les autres. Il ne suffit pas d'être ensemble pour former une société, il faut aussi avoir des relations. Et j'ajouterais même une chose, il faut interagir avec l'autre en sachant qui il est. Il faut interagir avec l'autre en le reconnaissant, de façon à ce que si on le re-rencontre un peu plus tard, on sache que c'est celui-là avec lequel vous avez interagi un petit peu plus tôt. D'accord ? Voilà la société. Alors, des sociétés, il y en a plein. Il y a des sociétés animales aussi, il n'y a pas que des sociétés humaines. Et je vais essayer de vous démontrer que les sociétés animales ne sont pas tellement différentes des sociétés humaines. Alors, vous reconnaissez ces petites bestioles, hein ? C'est une abeille donc, qui vient d'avoir butiné. Elle avait plein de pollen sur les postérieurs. Voilà, vous voyez son pollen. Et là, elle fait une petite danse. Elle se balade en 8, comme vous voyez. Elle forme un 8 et elle vibre l'abdomen, toujours dans la même direction, un peu en haut à gauche, vous voyez. Elle vibre l'abdomen lorsqu'elle se déplace d'en bas à droite vers en haut à gauche. Vous voyez faire ça, elle vibre son abdomen pour environ une demi-seconde. D'accord ? Ça, c'est un langage symbolique. C'est le premier exemple et un des meilleurs exemples de langage symbolique connu chez les animaux. J'explique comment ça marche, c'est très simple à décoder. Vous regardez la direction dans laquelle l'abeille faisait sa petite danse, donc elle allait en haut à gauche, sachant que la verticale, c'est là où se trouve le soleil, dans son référentiel. Et bien, la source alimentaire qu'elle cherchait à indiquer à ses congénères, vous pouvez en déduire qu'elle est un petit peu à gauche du soleil. Donc si vous observez une abeille faire cette danse-là, vous sortez de la ruche, vous regardez dehors, vous trouvez le soleil, et vous regardez un petit peu à gauche. Et vous regardez à une distance proportionnelle à la durée de la danse. Donc là, elle a dansé pendant une demi-seconde, ça fait à peu près quelques centaines de mètres. D'accord ? Et vous vous rendez là-bas, vous trouverez une belle source de nourriture, plein de plantes. C'est génial, c'est la danse des abeilles. C'est magnifique. Alors, des sociétés animales, il y en a d'autres. Vous avez tous vu la marche de l'empereur, j'imagine, donc vous connaissez ces petits oiseaux, qui ne sont pas si petits que ça, d'ailleurs. Alors, ces oiseaux-là vivent en Antarctique, hein, ce sont les manchots empereurs, et ils vivent en société très, relativement soudée, notamment pendant l'hiver, où les individus se mettent tous ensemble pour se réchauffer et protéger leurs œufs. Et quand ils sont tous ensemble, ils font une espèce de tortue, et les individus qui sont à l'extérieur bougent petit à petit pour rejoindre l'intérieur où il fait chaud, et ensuite ils retournent à l'extérieur, donc les individus coopèrent. Il n'y a pas vraiment de tricheurs qui restent tout le temps à l'extérieur, parce que s'il y avait trop de tricheurs, eh ben, cela mourrait. Et ça ne marche pas. Donc, c'est l'exemple d'une belle société assez stable, les manchots empereurs. Les éléphants de mer vivent en société aussi. Vous avez ici le noyau de la société des éléphants de mer. Un mâle énorme, plus de 2 tonnes, c'est très très gros. Et ses femelles. Donc voilà, c'est une société en harem, un mâle polygame, très puissant, qui dirige son groupe de femelles et qui ira se battre à mort contre d'autres mâles s'il cherche à les lui piquer. C'est bien normal. Voilà cette petite bête adorable, qui est un rat taupe nu, qui vit en Afrique de l'Est, pas très loin de là où Michel Brunet et ses collègues creusent. Et peut-être, au cours de vos travaux terrassiers, vous avez rencontré des rats taupes, je ne sais pas. Alors, je ne pense pas toutefois, car les rats taupes préfèrent les sommes meubles. Et je doute qu'elles fréquentent beaucoup les fossiles humains. Si elles les rencontraient, elles n'en mangeraient pas, car elles mangent des racines. Voilà. Les rats taupes nus vivent au sein d'une vraie société, comparable à la société des abeilles, si je puis me permettre. Il y a une reine qui se reproduit, c'est la seule à se reproduire. Il y a 2-3 mâles en général avec, qui se reproduisent avec la reine. Et tous les autres individus, ils sont stériles. Si l'un des individus reproducteurs meurt, un des individus non reproducteurs deviendra fertile à nouveau. D'accord ? Donc les individus reproducteurs inhibent les individus non reproducteurs qui, eux, élèvent les jeunes. Ils élèvent les jeunes, ils vont défendre le groupe s'il y a une attaque par un prédateur. Donc il y aura des soldats, ils sont spécialisés par tâche, les soldats font que ça. Les éleveurs font que élever les jeunes. Et les terrassiers, il y en a qui creusent des trous, c'est pour ça qu'elles ont des grandes dents. Alors ce sont des rongeurs. Donc ces dents très proéminentes servent à creuser. Et enfin les suricates, c'est un petit exemple aussi assez connu de société animale. Ces petites mangoustes vivent en Afrique du Sud, dans le désert du Kalahari, en Afrique du Sud, au Botswana. Et elles vivent en groupe, et au sein de ces groupes, certains individus sont spécialisés dans la détection des prédateurs. Alors peut-être vous avez déjà vu ces reportages animaliers de la BBC ou sur des chaînes françaises, je ne sais pas, où vous voyez une petite mangouste trouver un perchoir relativement élevé, et elle se tient toute droite comme ça, et elle regarde autour d'elle. Et si jamais il y a un aigle qui s'approche, s'il y a un prédateur terrestre qui s'approche, elle va pousser un cri d'alarme, et toutes les autres mangoustes ont entendu le cri d'alarme et se rendent dans leur terrier. D'accord ? C'est très avantageux comme système pour tous ceux qui ne surveillent pas. Parce que celui qui surveille, lui, il est là, il fait « Je suis là, prédateur, viens m'attaquer. » Ce n'est pas très malin de sa part. Moi, si j'étais une mangouste égoïste, je ne ferais pas ça. Je serais avec les autres et j'attendrais que quelqu'un d'autre fasse le boulot et détecte les prédateurs pour moi, parce que c'est un gros risque de détecter les prédateurs. Vous signalez votre position. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. C'est le béaba de l'art guerrier. César s'en retournerait dans sa tombe. Alors, pourquoi est-ce qu'elles font ça ? C'est une bonne question. La raison pour laquelle elles font ça, c'est que ces petites bestioles, elles sont apparentées et que celles qui se sacrifient une fois de temps en temps, il y a un éclaireur qui meurt pour la bonne cause, et bien en se sacrifiant, elles sauvent un grand nombre d'individus auxquels elles sont apparentées. Et ces individus auxquels elles sont apparentées partagent des gènes avec cet individu-là, évidemment, comme vous partagez des gènes, vous avez des gènes en commun avec vos enfants davantage qu'avec moi. Et si jamais vous sauvez votre enfant, vous sauverez vos gènes un peu mieux que si vous me sauvez moi. C'est ce que font ces petites mangoustes. Et c'est pour ça aussi que si un jour vous avez le choix entre sauver vos enfants et me sauver, il y a de grandes chances pour que vous choisissiez vos enfants. Je ne vous en voudrais pas. C'est vos gènes qui vous disent ça et vous ne faites que suivre le béaba de la biologie évolutive, des lois de la biologie évolutive en le faisant. C'est ce qu'on appelle la sélection de parentèle. La parentèle, c'est l'ensemble de vos apparentés et vous les aidez. Voilà. Qu'en est-il des primates ? Alors les primates, comme vous le savez peut-être, il y en a un peu partout dans la ceinture tropicale terrestre. Voilà, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est. Il n'y en a pas du tout en Australie. En Australie, il n'y a que pas de mammifères placentaires. Il n'y a que des marsupiaux et des monotrèmes, des mammifères qui pondent des œufs. Donc des primates, il y en a un peu partout. Alors, fut un temps, il y en avait même davantage. Ils avaient une aire de répartition plus grande. Et on trouve des fossiles de primates non humains en Europe, en Amérique du Nord, dans des zones où, à l'heure actuelle, ils ont disparu. Alors, si on regarde maintenant les grands singes, qui nous intéressent, parce que quand même, hein, Il y en a plusieurs. Voici où vivent les chimpanzés et les bonobos. Les chimpanzés et les bonobos ils appartiennent au même genre, au genre des chimpanzés, si on veut, une globale. Les bonobos vivent au sud du fleuve Congo, qui passe à peu près ici. Les chimpanzés vivent au nord et à l'est. D'accord ? Voilà, chimpanzés et bonobos. Les orang-outans, eux, vivent en Asie du Sud-Est, sur les deux îles que voilà, Bornéo et Sumatra. Bornéo, c'est cette grande île-là. Sumatra, c'est l'île qui est allongée de ce côté-là. Et les gorilles, eux, vivent au nord et à l'est du fleuve Congo, en sympatrie, donc dans le même milieu, on dit en sympatrie, que les chimpanzés, en partie, évidemment. On ne trouve pas notamment de gorilles dans l'Afrique de l'Ouest, alors qu'il y a des chimpanzés dans cette zone-là. D'accord ? Voilà où vivent nos cousins les gorilles. Pas de grands singes en Amérique, en dehors de l'homme. Alors, les systèmes sociaux des primates sont également très variés. Ils sont aussi variés que les systèmes sociaux des autres mammifères, et ils sont même peut-être plus intéressants, car ils sont un petit peu plus proches de notre système social à nous. Voici un petit exemple, un Ouistitia argenté qui vit en Amérique du Sud. Le Ouistitia argenté, il vit en groupes familiaux. Il y a un couple reproducteur, et les enfants restent là pendant une partie de leur vie pour aider papa et maman à élever les enfants et les frères et les sœurs. Et il y a souvent aussi les grands-parents ne se reproduisent pas, et ils aident aussi à élever les frères et les sœurs. Alors ce qui se passe chez ces petits bonhommes, c'est que la femelle met au monde deux bébés, et que deux bébés à porter, c'est lourd, alors elle a besoin d'aide notamment pour porter les bébés. C'est pour ça qu'il y a toute sa petite famille qui reste avec la maman pour aider à porter les enfants notamment. Le père participe beaucoup à l'élevage des enfants. Voilà un colobe guéréza, un primate d'Afrique, d'Afrique centrale, de l'Est, de l'Ouest, il y en a partout des colobes guéréza. Et ce primate-là vit dans des groupes, il est folivore, il mange des feuilles essentiellement dans les arbres. C'est un très beau primate, si vous allez dans l'Afrique de l'Est, vous le verrez, il est magnifique. Le gorille, ici le gorille de plaine de l'Ouest. Il y a plusieurs gorilles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais celui-là est le taxon le mieux représenté et le moins étudié. Donc il y a beaucoup de ces gorilles-là, mais ils sont relativement méconnus. C'est sur cette espèce-là, ce taxon, que j'ai fait ma thèse. Le gorille de plaine de l'Ouest vit en petits groupes d'environ une dizaine d'individus en moyenne, maximum 20 individus, mais rarement plus, avec toujours un seul mâle adulte, pas plus. Voilà le mâle adulte, il est là, imposant, on l'appelle le silverback, le dos argenté. Ici, sa femelle, son enfant, et il a d'ailleurs d'autres femelles, ce mâle-là, qui ne sont pas sur la photo. Les groupes sont en général des harems, il y a un mâle avec plusieurs femelles, jusqu'à une dizaine de femelles, on va dire, au maximum, environ. Et les enfants. Et voilà, c'est la société des gorilles. Il y a aussi des mâles qui, du coup, se retrouvent sans femelles, parce que, si vous comptez, il y a plus de femelles que de mâles au sein des groupes. Du coup, ça signifie que certains des mâles n'arrivent pas à se reproduire, malheureusement, pour eux. Et donc, une partie de leur vie, ils sont célibataires, et les mâles ont finalement une carrière reproductive qui est assez courte, si on compare à leur espérance de vie. Alors que les femelles, elles se reproduisent tout au long de leur vie, elles n'ont jamais de problème pour trouver des mâles, hein. Évidemment. Et voici les babouins qui vivent dans des grands groupes de plus de 50 individus parfois. Et ici, c'est le babouin Chacma, Papu Ursinus, qui vit en Afrique du Sud, dans le sud de l'Afrique, plutôt en Afrique australe. Donc. Et dans des groupes où il y a plusieurs mâles, plusieurs femelles, les mâles sont très forts, ils se battent entre eux, ils ne s'aiment pas trop. Et les femelles, elles sont également assez costauds et elles se battent pas mal entre elles. Elles ont des hiérarchies de dominance assez marquées. Elles sont belliqueuses, elles ne sont pas très bien lunées en général. Voilà. Alors, pourquoi vais-je soutenir qu'on peut comprendre les sociétés humaines en étudiant les primates non humains? Voilà le raisonnement. Je vais faire l'hypothèse que l'environnement dans lequel chaque espèce de primate vit influence son système social. C'est-à-dire que si vous changez l'environnement, le système social n'est plus bien adapté et va évoluer vers un nouvel équilibre. D'accord ? On fait l'hypothèse que l'environnement influence le système social et on va tester cette hypothèse. Si jamais j'ai raison, et que l'environnement, l'écologie, au sens étymologique du terme, écologie, vous savez, ça vient du grec oikos, qui veut dire la maison, c'est ce qui nous entoure, donc l'environnement des primates, l'écologie des primates, influence, selon mon hypothèse, la façon dont ils interagissent ensemble, leur système social. Et il y a des mécanismes. Si on détermine ces mécanismes, et qu'on les met de côté, on va pouvoir les réutiliser plus tard. Car on va aussi faire l'hypothèse que l'environnement passé, les paléo-environnements, influence les systèmes sociaux des hominidés disparus, n'est-ce pas ? Et on connaît ça, on connaît l'environnement passé grâce à tous les fossiles et l'information qu'on peut collecter autour des hominidés fossiles dans les sites où on les trouve. On connaît leur environnement passé. Et si on connaît les mécanismes, et qu'on suppose que ces mécanismes actuels valaient également dans le passé, il n'y a pas raison que ça change, hein, eh bien on pourra en déduire quels étaient les systèmes sociaux des hominidés disparus, sans avoir à chercher des fossiles de comportement en vain. D'accord ? Alors voilà l'idée, on va essayer d'établir ces mécanismes-là, de façon à pouvoir les appliquer aux environnements passés. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler beaucoup de cette partie-là, quand on n'aura pas le temps, mais je vais vous parler du reste, et j'espère que ce sera intéressant pour vous. Alors, voilà ce qu'on disait. Pourquoi choisir les primates comme modèle d'étude plutôt que d'autres animaux sociaux, d'autres mammifères sociaux ? Il y a plusieurs raisons pour ça. Pratiquement toutes les espèces de primates diurnes qui nous ressemblent, donc les singes et les grands singes, qu'on appelle les simiiformes, c'est le sous-ordre des simiiformes, sont sociales. Sur de 270 espèces, je ne serais pas capable de vous citer une seule espèce diurne qui n'est pas sociale. Et il y a une espèce, enfin, un genre, qui est nocturne et qui est un petit peu moins social, encore que. On dit souvent que les orang-outans ne sont pas sociaux, c'est faux. Leurs systèmes sociaux, à tous ces primates, là, ces 270 taxons, ça fait quand même énormément de points, de données à collecter, sont extrêmement variés. Donc on a autant, presque autant, de systèmes sociaux différents. Et ils vivent évidemment partout dans le monde, dans des environnements très variés, tout autour de la ceinture tropicale. Et en plus, certaines de ces espèces sont écologiquement très proches des hominidés fossiles. On a là tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir à faire ce qu'on appelle de l'inférence, c'est rassembler de l'information pour inférer, pour en déduire le comportement social des hominidés fossiles disparus. Alors, on pourrait se dire, pourquoi pas se focaliser sur les grands singes, car c'est nos plus proches parents. Alors, vous entendrez souvent des gens vous dire, oui, il faut étudier les grands singes, parce qu'ils nous en apprennent davantage sur nous-mêmes. Alors, je suis qu'à moitié d'accord avec ça, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Alors, la raison pour laquelle on soutient toujours qu'il faut étudier les grands singes pour comprendre un peu mieux l'homme, et je le fais souvent, hein, je vais pas le dire, c'est qu'on est effectivement très proches. On va dire que les gorilles, alors si on se focalise sur les grands singes africains, hein, c'est-à-dire l'homme, les gorilles, les chimpanzés, les bonobos, on s'est séparés il y a quelques millions d'années, environ 9 millions d'années. Alors ça, c'est le nombre qui est dans la littérature actuellement. Il va bouger de plus ou moins 2 millions d'années dans les années qui viennent, je vous le parie. Et ça a été calculé d'après les données génétiques. Il y a toujours des conflits entre les données paléontologiques et les données génétiques, mais on va dire qu'il y a à peu près un consensus pour cette date-là. Les chimpanzés se sont séparés de la lignée humaine il y a environ 5-6 millions d'années, on va dire entre 7 et 5 millions d'années. Allez. Et les chimpanzés, eux, sont à nouveau séparés. Alors, il y a deux choses à voir dans cet arbre-là, à considérer en regardant cet arbre-là. La première des choses, c'est que vous voyez l'homme ici, il est en plein milieu des grands singes, hein, il n'est pas exceptionnel. On n'est pas là en bout de branche. Alors souvent, vous verrez cet arbre-là représenté de façon à avoir l'homme au bout d'une branche et les chimpanzés au milieu, comme si l'homme était un peu l'aboutissement de l'évolution. C'est faux. Je vais rester poli, c'est une ânerie. D'accord ? L'homme a commencé à évoluer exactement en même temps que tous les singes, que tous les êtres vivants, et on est aussi évolué que n'importe quel être vivant. Après, si on considère l'évolution sociale en particulier, on a un système social qui est définitivement le plus complexe des primates, c'est clair. Sur le plan de l'évolution générale, notre évolution génétique, notre évolution anatomique, morphologique, physiologique, on est loin d'être ceux, les animaux qui marchent le mieux, hein. Vous prenez la physiologie de n'importe quel oiseau, c'est bien mieux fichu que la physiologie d'un être humain. Je vous le dis, ça marche beaucoup mieux, c'est très beaucoup plus performant. On n'est pas plus évolué que n'importe quel être vivant. D'accord ? C'est une grosse bêtise de dire ça, de supposer que l'homme sort du lot. Et c'est pas plus mal. Alors, l'autre chose pardon, à voir dans sur cette diapo-là, c'est qu'effectivement, si on est tous relativement proches, on ne s'est pas séparés il y a tant de temps que ça, on est morphologiquement assez différent, et si vous comparez même les hominidés fossiles, donc qui sont encore plus proches de nous que les gorilles, par exemple, ou les chimpanzés, pour certains d'entre eux, eh bien, on trouve des différences. Donc, on voit que l'évolution, elle ne se produit pas sur des pas de temps de dizaines de millions d'années. L'évolution, ça peut être rapide. L'évolution sociale, ça peut être très rapide. C'est une idée fausse de penser que l'évolution est un phénomène extrêmement lent. Pour vous en convaincre, regardez les animaux domestiques. Les animaux domestiques sont soumis à une pression de sélection très forte exercée par l'homme et évoluent à toute vitesse. Vous comparez différentes races de chiens qui ont évolué par la pression de sélection exercée par l'homme. En quelques générations, on peut passer d'un tout petit chien à un très grand chien. L'évolution peut être très rapide dès l'instant où ce qu'on appelle coefficient de sélection, la pression de sélection exercée par l'environnement, est suffisamment forte. D'accord ? Donc l'évolution peut être un phénomène rapide et il n'y a pas de raison d'imaginer que c'est parce qu'on est relativement proche phylogénétiquement qu'on va être forcément relativement proche socialement, c'est même faux. D'accord ? Donc il y a du pour et il y a du contre dans la raison pour laquelle on devrait se baser spécifiquement sur les grands singes pour étudier l'homme. Et ce n'est pas ce que je vais faire, je vais utiliser plusieurs exemples, dont des primates non humains, dont des grands singes, mais pas seulement. Quand on cherche à comprendre l'évolution des sociétés, on est d'abord confronté à deux hypothèses. La première hypothèse est celle que les individus qui composent les sociétés ne cherchent qu'à maximiser leur intérêt, qu'à maximiser ce qu'on appelle leur valeur reproductive, leur succès reproducteur, ou pour les Anglais, leur fitness. Ça s'appelle la fitness en anglais. Alors si c'est vrai, les sociétés sont juste la somme d'individus égoïstes qui cherchent à maximiser la transmission de leurs propres gènes ou de leur propre culture, n'importe quel trait qui est héréditaire. Alors pour illustrer ça, on pourrait prendre cet aphorisme de Margaret Thatcher qu'elle a prononcé lors d'une illumination en 1987. « There's no such thing as society », ce qui veut dire « Il n'existe pas de chose telle que la société, il n'y a pas de société, la société, ça n'existe pas. » D'accord, c'est pas très étonnant qu'on la connaît. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de la sélection de groupe. Les sociétés seraient des espèces d'entités qui évoluent et qui peuvent éventuellement entrer en compétition avec d'autres sociétés et les supplanter. Donc les sociétés, c'est un peu comme des individus à part entière, composés de sous-individus, nous autres. Mais nous autres, finalement, en tant qu'individus, on n'aura pas grand mot à dire. C'est la société qui décide pour nous, qui peut supplanter ou non un autre individu, une autre société. Alors, voilà, il y a une phrase de Rapaport qui définit très bien la sélection de groupe. Alors, je vais vous le traduire. Par la sélection de groupe, j'entends la sélection et la perpétuation de conventions qui favorisent la persistance des groupes, même si ces conventions peuvent être désavantageuses aux individus égoïstes. Qui agissent pour eux-mêmes. D'accord ? C'est ça la définition de la sélection de groupe. C'est le maintien de comportements qui en quelque sorte, punissent certains individus qui cherchent à être égoïstes. Alors, qu'est-ce qui est vrai ? Hypothèse 1 ou hypothèse 2 ? Et là, vous allez tous être très déçus. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que la sélection naturelle ? Un trait est sélectionné, positivement ou négativement, il peut être favorisé ou défavorisé, si et seulement si ces trois choses sont remplies. S'il y a une chose que vous devez savoir sur la sélection naturelle, c'est ces trois points. Le trait en question, qui peut être un trait génétique, un gène, ou ça peut être un trait culturel, une connaissance que vous avez, que vous transmettez à vos enfants, n'importe quel élément que vous souhaitez transmettre, que vous pouvez transmettre, doit être héréditaire, évidemment, par définition, pour être soumis à la sélection naturelle. Il doit être variable au sein de la population. S'il n'y a pas de variété, il n'y a pas de sélection, on ne sait pas quoi sélectionner s'il n'y a qu'un élément à sélectionner. D'accord ? Et enfin, les différents variants, c'est-à-dire les différents éléments, qui composent ce pool de variables, vont influencer la valeur reproductive, la fitness des descendants. D'accord ? Nombre avec un S, je m'excuse. Alors imaginons une société animale, société optimale, pardon, et essayons de falsifier l'hypothèse 2. Falsifier l'hypothèse 2, c'est prendre un exemple pour essayer de montrer qu'elle est fausse. Soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Voyons voir. On va imaginer une société optimale qui a évolué par sélection de groupe, ou une société qui fonctionne très bien, qui a un taux de croissance meilleur que les sociétés alternatives et qui remporte la compétition des sociétés. Imaginons maintenant qu'un mutant égoïste, un individu égoïste, apparaisse par hasard au sein de cette société et que ce mutant égoïste, comme tout égoïste qui se respecte, il vole les ressources de ses voisins. En volant les ressources de ses voisins, il accroît sa richesse et il produit des enfants en plus grande abondance que ses voisins. Ses enfants héritent de son trait, ils héritent de son caractère voleur, parce que les voleurs font des voleurs dans cette société-là. Et ce mutant aura une descendance plus abondante que le reste de la population. Qu'est-ce qui va se passer après 100, 1000, 10 000 générations ? Eh bien, le taux de croissance de la société va diminuer, parce que tout le monde sera tricheur et que ce sera au détriment de la société dans son ensemble. Ce que je cherche à vous expliquer, c'est que si vous avez une société idéale, n'importe quel tricheur dans cette société-là va empêcher sa société de perdurer. Une société idéale, une société optimale, ne peut être stable. À cause de cette caractéristique de la sélection sexuelle, de la sélection naturelle, pardon, qui est qu'elle agit sur les individus. et non sur une société. La sélection naturelle, c'est la sélection des individus qui ont le plus de descendants. Ce n'est pas la sélection des sociétés qui ont le plus de descendants, c'est sur les individus que s'exerce la sélection naturelle. La survie, la fécondité sont des traits propres aux individus, pas aux sociétés. Alors voilà, le problème, c'est que la sélection de groupe ne résiste pas aux tricheurs. C'est un peu pour ça qu'on ne vit pas dans des sociétés idéales. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous aviez remarqué, alors depuis le début, vous saviez très bien que j'en arriverais là. Et que malheureusement, le paradigme de la société idéale n'existe pas à part chez Voltaire, l'Eldorado. Les sociétés apparaissent et évoluent en réponse à une sélection s'exerçant sur les individus qui la composent. D'accord ? C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des propriétés émergentes qui apparaissent en réponse à cette évolution. On a parlé tout à l'heure du procès de Galilée, de la justice, etc., d'individus qui punissent d'autres individus à leur détriment. C'est possible, mais c'est possible parce que ça permet à ces individus-là, sur le long terme, également d'accroître leur propre valeur sélective. D'accord ? Pour des raisons un petit peu compliquées dont je ne vais pas parler maintenant, mais on peut expliquer les comportements altruistes par des intérêts égoïstes. N'allez pas penser que l'altruisme est la meilleure preuve de la sélection de groupe. C'est malheureusement faux. Ce n'est pas le sujet de cette conférence aujourd'hui. On pourrait faire une conférence sur la coopération et l'entraide. Je reviendrai une autre fois, peut-être. Alors, pourquoi vivre en groupe ? Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et au cours des quelques diapos qui vont suivre, je vais vous expliquer pourquoi on vit en groupe et pourquoi est-ce que nos sociétés ont telle ou telle particularité. Vivre en groupe, ça permet de mieux détecter les prédateurs. Si vous avez plus de paires d'yeux pour détecter un prédateur, on le verra. S'il y a un lion qui rentre dans la salle maintenant, ceux du premier rang ne vont pas le voir, mais ils vont entendre les cris et vous saurez qu'il y a un lion très rapidement. Alors que si vous étiez tout seul dans la salle, eh ben, vous vous feriez manger par le lion qui rentre dans la salle. Ce n'est pas un exemple très lumineux, mais vous m'aurez compris. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que s'il y a un lion qui rentre dans la salle maintenant, il va en choper un d'entre vous, mais il ne va pas manger tout le monde. Alors que si vous êtes tout le temps dans la salle, tout seul dans la salle, il y a des chances que ça tombe sur vous. C'est ce qu'on appelle la dilution du risque de prédation. Plus on est nombreux, plus on est protégé, c'est tranquille. Je pense que tout le monde l'a observé. Si vous vous rappelez l'école primaire, la maîtresse pose une question, et là tout le monde reste assis, personne ne lève le doigt en disant ça va tomber sur un autre. C'est exactement ça, la dilution du risque de prédation par la maîtresse. D'accord ? C'est une des raisons de vivre en groupe. Alors si vous vivez dans une grande classe, vous allez lever la main moins souvent que si vous vivez dans une petite classe. Vous pouvez faire l'expérience, hein, vous regardez vos enfants, vous regardez ceux qui vivent dans des grandes classes ou dans des petites classes, ceux qui travaillent dans des grandes classes ou dans des petites classes à l'école. Et vous verrez que plus la classe est petite, plus ils vont lever la main et répondre aux questions de la maîtresse. Si la classe est grande, personne ne dit rien. Vivre en groupe, ça permet également de se défendre en groupe contre les prédateurs et d'être plus fort, évidemment. Là, c'est des bœufs musqués, un des rares mammifères vivant au Groenland, qui protègent leurs petits en faisant une espèce de barrière et en présentant leurs cornes. Alors, d'autres raisons de vivre en groupe, c'est pas seulement pour se protéger des prédateurs, ça permet également aux prédateurs d'acquérir plus de proies. On voit ici un buffle de savane attaqué par un groupe de lions. Un lion seul aurait davantage de difficultés à attaquer un buffle adulte. Il y parviendrait si le buffle n'est pas très gros et si le lion est très en forme. Mais il vaut quand même mieux être nombreux parce qu'un buffle, c'est très costaud, croyez-moi. Également, quand on est un prédateur ou quand on cherche à se nourrir de fruits ou de végétaux, si on vit en groupe, on peut défendre sa ressource mieux que si on est tout seul. Parce que si vous êtes tout seul et que vous avez... 3 autres animaux qui viennent de votre espèce, qui viennent à votre rencontre pour vous piquer votre nourriture, vous allez leur laisser la nourriture. Alors que si vous êtes 5, les 3 animaux qui viennent, ils ne pourront pas remporter votre nourriture. Donc défendre la nourriture sur laquelle on se nourrit, c'est également un avantage de la vie en groupe. Mais à ce moment-là, s'il n'y a que des avantages, pourquoi est-ce que les animaux ne vivent pas en groupe de taille illimitée ? C'est vrai que vous avez, je pense, certains d'entre vous ont probablement vu des groupes de lions. Une fois dans leur vie, les groupes de lions, ils vont comprendre quelques individus, une dizaine, on va dire, maximum. Pas plus, un groupe de gorilles, c'est 20 individus maximum. Un groupe de babouins, même si c'est un peu plus grand, ça va être 60-70 individus au maximum. Y a quelques exceptions. Il y a les colobes dans certaines populations, l'animal noir et blanc que je vous ai montré tout à l'heure, le petit singe arboricole. Il y a une population dans une forêt où ils vivent en groupe de 400 individus, c'est tout. C'est la seule population où ils vivent dans des groupes aussi grands. Sinon, ils vivent en groupe d'une dizaine, quinzaine d'individus. Alors pourquoi les groupes ont-ils une taille limite ? Hein, pour ça. Voilà sur ce graphe, j'ai représenté très schématiquement, hein, ce n'est pas basé sur des données, ce qui se passe. On a la taille du groupe, en abscisse ici, et en ordonnée, le succès reproducteur des individus, c'est-à-dire à quel point c'est avantageux de vivre en groupe. Okay, c'est le mot savant pour dire à quel point c'est avantageux de vivre en groupe. Est-ce qu'on a un succès reproducteur élevé ou un succès reproducteur faible ? Ce qui se passe, c'est que la taille du groupe augmente, le succès reproducteur augmente parce qu'on arrive mieux à se protéger des prédateurs ou on chasse mieux. Jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel, ça redescend. Et finalement, le succès reproducteur, il est maximum ici. Et la taille des groupes, elle évolue dans le temps, génération après génération, jusqu'à ce que les animaux préfèrent vivre dans un groupe de, dans ce cas-là, peut-être 1, 2, 3, 4, 5 individus à peu près. Donc voilà, dans cette espèce fictive, les individus préfèrent vivre en groupe de 5 individus. D'accord ? Donc il y a un optimum qui est ici, qu'on appelle l'optimum adaptatif. D'accord ? C'est l'optimum, qui, la valeur du trait, le trait étant la taille du groupe, qui permet aux individus de maximiser leur succès reproducteur. D'accord ? Donc voilà ce qui se passe. Alors pourquoi est-ce que ça redescend ici ? Alors c'est très simple, c'est parce qu'au fur et à mesure que la taille des groupes augmente, il y a des avantages qui deviennent de plus en plus contrebalancés par les coûts. D'accord ? Un coût, c'est l'inverse d'un avantage. Un coût, c'est quelque chose qu'on a à payer, un bénéfice ou un avantage, quelque chose dont on bénéficie, qui permet d'accroître le succès reproducteur. Et au-delà du seuil, les coûts excèdent les bénéfices. Alors je vais présenter deux exemples de coûts pour bien illustrer mon propos. Le premier, c'est le plus important, la compétition alimentaire chez les femelles chimpanzés. Les chimpanzés vivent en groupe, qui peuvent compter jusqu'à 120-130 individus, dans certaines forêts, notamment en Afrique de l'Est. Ces groupes-là, ils vivent au sein d'un territoire qui est gardé par les mâles. Les mâles font des patrouilles régulièrement au bord du territoire pour empêcher l'intrusion d'étrangers. Et les femelles, elles vivent dans ce groupe-là, dans cette communauté, on parle de communauté chez les chimpanzés, protégée par les mâles, dans un territoire donné. Et elles ne vivent pas en un seul groupe de 100 femelles ou de 60 femelles ou de 70 femelles. Non, elles se séparent en petits groupes. Et le nombre de ces petits groupes-là dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de la densité en arbre fruitier. D'accord ? Alors vous voyez ici, il y a des périodes fastes et des périodes moins fastes. À gauche, c'est les périodes moins fastes. Pendant les périodes fastes, donc quand la densité en arbre fruitier augmente, il y a plus de ressources alimentaires, la taille moyenne des sous-groupes formés par ces femelles-là, elle est plus grande que quand la densité en arbre fruitier est plus faible. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est la preuve que vivre en groupe de grande taille n'est avantageux probablement que s'il y a beaucoup de ressources alimentaires. Pourquoi ça ? Parce que quand on est en groupe, on entre en compétition alimentaire avec les membres de son propre groupe. Et ça, c'est pas terrible. D'accord ? Donc voilà un exemple. Je trouve que le système social des chimpanzés est très flexible. On parle de système de fission-fusion. Les groupes fissionnent et fusionnent et s'adaptent à la disponibilité de la ressource alimentaire. Donc en bonne période, les groupes fusionnent. Et lorsque les temps sont difficiles, les groupes fissionnent et forment davantage de petits groupes de façon à ce que les femelles au sein de ces groupes-là puissent toujours s'alimenter de façon optimale et ne voient pas leur rapport calorique diminuer dramatiquement à cause de cette compétition alimentaire. Je prends un autre exemple, l'exemple de la sensibilité aux maladies. Et on va voir que vivre en groupe, ce n'est pas super si on cherche à se préserver du risque des maladies. Alors vous avez peut-être entendu parler d'une épidémie d'Ebola qui a sévi... plusieurs épidémies d'Ebola qui ont sévi depuis le milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000 au Congo et au Gabon. Plusieurs centaines de personnes qui ont été touchées dans quelques villages au Congo, notamment au nord-ouest du Congo. Et j'étais là-bas à ce moment-là et moi j'étudiais les gorilles. Et il se trouve que les gorilles ont également été touchées de façon dramatique par l'épidémie. Alors on voit ici, si c'est un chimpanzé qui est mort, j'ai pas trouvé de photo présentable de gorille mort en forêt pour ménager les âmes sensibles. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé dans les années 90 et 2000. Grosse épidémie d'Ebola a touché les gorilles là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors voilà le site. C'est bien. Hein ? Donc voilà, on est au Congo, et on est au milieu de la forêt, immense massif forestier équatorial, l'Afrique centrale, c'est magnifique, allez-y si vous pouvez, c'est merveilleux. Et ce que vous voyez ici, tout vert, c'est des arbres, il y a quelques nuages en blanc, et ici, ce n'est pas un nuage, il n'y a pas d'ombre. Là, c'est l'ombre du nuage, vous voyez. Ici, c'est un nuage qui n'a pas d'ombre, ce n'est donc pas un nuage, c'est une clairière. D'accord ? Et donc, moi, j'ai passé des mois et des mois et des mois et des mois sur cette clairière à observer des gorilles qui venaient visiter la clairière pour manger une ressource alimentaire qu'ils recherchaient. En fait, ils cherchaient du sel. Il y a beaucoup de sel dans cette clairière. Donc, ils venaient se nourrir, se boire de l'eau salée, entre guillemets, et se nourrir de végétation très riche en potassium et en différentiel sel. Sur cette petite clairière qu'on voit ici grâce à un satellite avec une un peu meilleure résolution, c'est Iconos. Et voilà, donc moi j'étais caché dans cet affût-là à observer la clairière toute la journée. 7 jours sur 7, 365 jours par an, c'était très bien. Et j'ai fait plein de photos évidemment. Et voilà ce qu'on pouvait voir sur la clairière. Des gorilles, des buffles, Et des colobes ici, vous les verrez si vous avez des bons yeux, ces petits colobes Gyrezza, donc toujours les mêmes. Donc voilà, ici on a un grand groupe de gorilles qui est en train de se nourrir sur une zone de terre nue. Ils se nourrissent de la terre parce qu'ils veulent donc des sels minéraux. C'est ce que je vous expliquais. Pendant l'épidémie, j'ai continué à observer ces gorilles-là. Et j'ai observé évidemment une baisse de fréquentation de la clairière. Et en plus d'observer ces gorilles-là et de prendre des photos, j'ai fait un peu plus que ça. J'ai également identifié tous les individus visitant la clairière. Environ 400 individus qui visitaient cette clairière-là. Je les ai tous identifiés individuellement. Ce qui fait que quand ils revenaient, je pouvais savoir qui revenait ou qui ne revenait pas. Alors voilà comment identifier un gorille. C'est exactement comme un humain. On regarde son visage et on le reconnaît. D'accord ? Vous voyez ici un visage de gorille, ici un autre. Un autre. Comme vous pouvez le voir, les gorilles ont des visages différents. Alors ça met un peu d'habitude pour réussir à identifier les gorilles individuellement, mais ça se fait très bien. Voilà encore un autre visage. Donc, vous voyez, c'est quatre visages de gorilles. Tous différents, on peut vraiment identifier les gorilles comme vous identifiez un homme. Après quelques mois de pratique, ça devient à peu près aussi aisé. Et grâce à ces données-là que j'ai recueillies, alors j'ai fait des analyses un petit peu compliquées dont je ne vais pas vous parler maintenant, mais j'ai pu montrer que c'était ça qui s'était passé pendant l'épidémie. Alors, voilà, ça c'est une échelle temporelle, donc ça part de 2002 jusqu'à 2005. Janvier, juillet, il y a 2 points par an. Et en ordonnée, l'axe des ordonnées, l'axe vertical, correspond à la survie des individus par intervalle de 10 jours. Alors en période normale, la probabilité d'être vivant 10 jours plus tard, c'est très élevé, c'est proche de 1. Une probabilité de 1, c'est quand un événement est certain. D'accord ? Donc, la plupart du temps, la probabilité qu'un groupe de gorilles ou qu'un gorille soit encore présent et que je puisse l'observer dans une semaine, dans 10 jours, pardon, c'est quasiment 1. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu que pendant une période donnée, ça a chuté avant de remonter. C'est-à-dire que pendant une période donnée, la probabilité qu'un groupe disparaisse a atteint les 20%, ce qui fait que la survie a atteint 80%. D'accord ? Donc pendant, par période de 10 jours, chaque groupe avait 20% de chance de disparaître. Chaque individu, pardon, dans cette population-là, avait 20% de chance de disparaître. C'est énorme comme probabilité d'être touché par la maladie. C'est bien plus fort qu'une épidémie de grippe chez nous. C'est vraiment pas comparable. C'est très violent comme épidémie. Et je me suis aperçu que cette valeur de 20% était beaucoup plus, donc cette valeur était beaucoup plus élevée pour les individus vivant en groupe que pour les individus vivant solitaires. Car chez les gorilles, certains mâles sont solitaires. Et les gorilles solitaires, pour le coup, eux, même si d'habitude ils ont plutôt pas de chance parce qu'ils n'ont pas de femelles, ils sont malheureux, et ben pendant l'épidémie, ils s'en sont bien tirés. Et le taux de mortalité des gorilles pendant l'épidémie a toujours resté inférieur au moins de moitié au taux de mortalité des gorilles vivant en groupe. Voilà. Alors si on regarde maintenant, si on compare la population avant et après l'épidémie, voilà à peu près ce que j'observais en termes de composition de la population, mâles, femelles et individus immatures, les jeunes, avant et après l'épidémie. Avant l'épidémie, le nombre de mâles était inférieur au nombre de femelles, c'est classique chez les primates pour lesquels le dimorphisme sexuel est fort. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais même chez l'homme, si vous prenez les adultes, au-delà d'un certain âge, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. C'est pareil chez les gorilles, parce que les hommes ont tendance à quitter la Terre plus tôt. Et ce qui s'est passé, c'est que comme certains des mâles sont solitaires, et que toutes les femelles, elles, vivent en groupe, les femelles ont été durement impactées, durement touchées, affectées par l'épidémie. Et le sexe ratio s'est inversé. C'est-à-dire, si avant l'épidémie, il y avait plus de mâles que de femelles, après l'épidémie, c'était l'inverse. Donc évidemment, le nombre total d'individus a chuté, il y a eu 95% de mortalité, c'est énorme. Hein. Et donc de mes 400 gorilles, il n'en restait que 2 ou 3 dizaines, hein. C'est pratiquement plus rien. Donc tous ces individus-là sont morts hein, d'une épidémie d'Ebola, c'était vraiment une catastrophe. Et il y a quand même plus de mâles que de femelles après l'épidémie. Voilà. Donc cette étude, outre son aspect dramatique et le fait qu'elle constitue quand même un bon exemple du danger pesant sur les grands singes dans la nature actuellement, permet de montrer qu'il est coûteux de vivre en groupe dès l'instant où on regarde la transmission des maladies. D'accord ? Voilà. Alors, donc, on a montré deux coûts, à la vie en groupe, la compétition alimentaire et la transmission des maladies. Alors, il y a deux exemples, mais je vais me cantonner à ces deux-là. Et je vais même revenir au premier, on va oublier le second pour l'instant, parce que le premier est quand même plus important. Compétition alimentaire affecte les grands singes, les petits singes, les primates en général, mais est-ce qu'il a le même impact sur les mâles et les femelles ? C'est une bonne question. À laquelle on peut répondre si on est conscient que le nombre maximum d'enfants par femelle est limité. Une femme ne peut pas avoir au cours de sa vie plus de, chez l'homme, on va dire, 10, 12 enfants. C'est en général le maximum, avec quelques exceptions évidemment. C'est le maximum si vous êtes enceinte tout le temps, pour les femmes. Un mâle, lui, par contre, un homme, s'il se débrouille bien, il peut en avoir plus. D'accord ? Ça existe, c'est classique. On a connu des harems dans l'histoire passée. Je ne parle pas de la préhistoire, chez l'homme, en Chine, au Maroc, dans différents pays, où il y avait pour chaque homme, pour le chef de telle ou telle société, plusieurs centaines d'épouses, de femmes, de concubines, et qui permettaient à ces hommes d'avoir des centaines et des centaines d'enfants, ce qui est impossible pour une femme unique. D'accord ? Les femelles primates, en général, investissent davantage d'énergie que les mâles dans la production des enfants. En termes de gestation, de lactation, etc. Une femelle se dépense beaucoup plus qu'un homme. Un homme, finalement, il se dépense pendant quelques heures, tout au plus. L'acquisition d'énergie est donc essentielle à la gestation pour les femelles et à la survie des jeunes. Ce que je veux vous dire, c'est que l'énergie alimentaire, l'énergie qu'on obtient quand on s'alimente, c'est beaucoup plus important pour les femmes que pour les hommes. D'accord ? C'est beaucoup plus important pour les femelles primates que pour les hommes, pour ces raisons. Le fait que les femelles investissent beaucoup plus d'énergie dans leur production, des enfants, par enfant. D'accord ? La compétition alimentaire, donc, c'est-à-dire la diminution de l'apport alimentaire lié à la compétition entre femelles au sein des groupes, est donc davantage affectée, touche davantage les femelles que les hommes. Et les mâles, me direz-vous ? Eh bien, pour savoir ce qui se passe chez les mâles, on va prendre un mâle un peu particulier qui est tout petit. Ce petit bonhomme n'est pas un primate, comme vous l'aurez reconnu, c'est une drosophile, la mouche du vinaigre. C'est une petite mouche que vous pouvez capturer si vous laissez des fruits pourrir sur votre rebord de fenêtre. Et cette drosophile-là, elle est extrêmement étudiée et bien étudiée par les chercheurs, parce qu'elle est très facile à reproduire, elle a un temps de génération très court, elle est très pratique à étudier pour tous les biologistes spécialistes de l'évolution. Et il y a un biologiste, Bateman, qui a étudié donc cette drosophile dans les années 40. Et en 1948, il a écrit un article dans lequel il présente une manip, une expérience, qui consiste à augmenter, à donner à chaque individu, mâle ou femelle, un certain nombre de partenaires, et à regarder combien d'enfants ils sont capables de produire. Donc voilà, si on donne à un mâle, si on donne à une femelle, on va regarder la coupe rose d'abord. Un mâle, elle va produire, disons, un enfant. Si on lui donne deux mâles, elle va produire 1,1 enfant. Si on lui donne trois mâles, elle va produire 1,2 enfants. Ça augmente très peu. Finalement, les femelles, qu'elles aient un mâle ou qu'elles en aient 10, ça leur fait pas grand-chose parce qu'elles ne vont pas augmenter le nombre de leurs enfants. Je pense que vous comprenez très bien ça. Une femme qui est polyandre, une femme qui est polygame chez nous, elle n'aurait pas plus d'enfants, beaucoup plus d'enfants qu'une femme qui est monogame. Pas vraiment d'avantage en termes d'enfants. Alors qu'un homme, lui, oui. Et c'est pareil chez les drosophiles. Si vous regardez cette courbe-là, une drosophile qui a mâle à laquelle on accorde deux femelles va avoir quasiment deux fois plus d'enfants qu'une drosophile mâle qui n'a qu'une femelle. Si on lui donne trois femelles, elle va avoir trois fois plus d'enfants quasiment. Et ça se stabilise après. Alors, il n'y a pas beaucoup de points ici, hein, évidemment. Il est probable que la courbe continue à augmenter. Il n'y a pas beaucoup de points pour supporter cette tendance plate ici. Mais voilà, et ce résultat-là, c'est un résultat extrêmement essentiel en biologie évolutive pour la compréhension des mécanismes de l'évolution. Il y a une énorme dissymétrie entre les intérêts des mâles et les intérêts des femelles. Et la dissymétrie, elle est là. Alors, les mâles ont davantage intérêt à maximiser le nombre de leurs partenaires sexuels que les femelles, tandis que les femelles, elles, ont intérêt à acquérir un maximum de calories par leur alimentation. D'accord ? C'est ça la dissymétrie. La ressource critique essentiel pour les mâles, ce n'est pas les aliments, c'est les femelles. D'accord ? C'est ça qui se passe. C'est valable chez quasiment tous les animaux. Il y a quelques très rares exceptions, dont les hippocampes, si vous connaissez, quelques oiseaux. Mais sinon, c'est vraiment très universel. Les femelles investissent toujours plus que les mâles dans la production des enfants, et du coup, elles souffrent davantage de la compétition alimentaire. Voilà pourquoi les hommes sont polygames davantage que les femmes. Et vous savez aussi maintenant pourquoi les femmes ont des envies de fraises, et les hommes ne pensent qu'à ça. Voilà l'explication, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Bon, on va revenir à nos primates après notre petite interlude drosophile. Et voilà deux primates que je vais vous présenter. Alors, je vous présente d'abord les gorilles. Voici le gorille de montagne et cette petite femelle que je connais bien, qui vit en Ouganda, qui s'appelle Tindamanyere. En langue locale, ça veut dire « je ne sais pas ». Parce que le jour où elle est apparue dans le groupe, les assistants de recherche qui travaillaient pour nous se sont posés la question de savoir qui c'était cette femelle. Ils n'étaient pas sûrs. Ils font « mais c'est qui ?» Et la réponse a été « je ne sais pas ». Et du coup, c'est devenu le nom de cette femelle, Tindamanyere. Et voici une autre espèce de gorille, le gorille de plaine de l'Ouest que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Alors, il est un peu moins poilu, un peu moins noir. Ils font à peu près la même taille. Il y a des différences morphologiques. Voilà. Les deux sont globalement herbivores, folivores. Donc, ils mangent une ressource qui est relativement abondante dans l'habitat, comme on le voit ici, là, c'est moi, en Ouganda. Et le gorille de plaine, c'est son habitat. Voilà une photo de Shelly Massey, qui travaille au muséum, ici, à l'histoire naturelle, et qui étudie les gorilles de plaine en Centrafrique. Un autre exemple, les babouins. Alors, vous avez tous reconnu un babouin. Voilà une femelle babouin qui groome, qui épouille un mâle babouin. Voilà leur habitat, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'habitat des gorilles. C'est très aride. Là, c'est le désert du Namib, où j'ai eu la chance de passer quelques temps, il y a quelques années. Et voilà une des ressources très importantes pour ces babouins. Ce sont des arbres qui ont des racines très profondes, qui vont puiser de l'eau très très profondément dans les lits de rivières asséchées. Cet arbre-là, c'est un prosopis, il s'appelle. Et c'est une légumineuse. Les babouins se nourrissent des gousses produites par cette légumineuse. Donc c'est le fruit. Hop, pardon. Donc dans le cas des gorilles, on a une ressource alimentaire qui est distribuée en patch, en amas, de très grande taille. D'accord ? La végétation herbacée, c'est relativement bien distribuée de façon homogène dans l'environnement. Si on regarde un groupe, plusieurs groupes dans cet environnement-là, on s'aperçoit qu'en général, l'étalement des groupes, la taille du groupe, la surface couverte par le groupe est inférieure à la taille de ces patchs alimentaires. D'accord ? De ce fait, la compétition entre les individus est assez particulière. Ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, l'ensemble des individus vont consommer la ressource alimentaire sur ce patch-là et diminuer la disponibilité des aliments pour les congénères. On a définitivement une compétition alimentaire. Mais si vous imaginez dans ce groupe-là un individu qui s'affirme et qui déclare qu'il va faire la guerre aux autres individus pour leur piquer les aliments, ça va avoir aucun impact. Parce que ces autres individus-là, ils n'auront qu'à bouger de 3 mètres et aller manger un peu plus loin, il y aura de la nourriture toujours. Donc il y a une compétition alimentaire, parce que tout le monde mange et qu'il y a moins de nourriture globalement, mais il n'y a pas d'avantage aux individus belliqueux. Il n'y a aucun avantage à aller pousser le voisin et prendre sa place, parce qu'il y a de la ressource alimentaire partout autour, et à peu près en quantité égale pour tout le monde. D'accord ? Donc la compétition, elle est indirecte. Elle est indirecte parce qu'elle n'est pas médiée, elle n'intervient pas lors de comportements agonistiques, de comportements agressifs entre individus. Chez les babouins, c'est différent. La ressource alimentaire, vous l'avez vu, c'est les petits arbres. Sur un groupe de 60 babouins ne tient pas dans un arbre comme ça, je vous le garantis. Alors ce qui se passe, c'est que les babouins sont toujours en train de se battre pour essayer d'avoir un peu d'aliments dans ces arbres-là. D'accord ? La compétition alimentaire, voilà les groupes, ils sont plus grands que les arbres. La compétition, elle est directe. Dans ce type de société-là, un individu qui a une meilleure aptitude à se battre, va l'emporter. Donc, la société des gorilles est une société égalitaire, pour ce qui est des femelles. Les femelles, entre elles, elles sont toutes à peu près identiques. Il y a des dominantes, il y a des dominées, mais la différence entre une dominante et une dominée, elle n'est pas très forte. Elles arrivent toutes à tirer leur épingle du jeu. Chez les babouins, les dominées, ils sont vraiment malheureux. Il n'y a que les dominantes. Les femelles dominantes qui arrivent à s'alimenter correctement, les femelles dominées, elles souffrent beaucoup de la compétition. On observe plusieurs comportements qui montrent bien l'existence de cette compétition très fort. On parle de société despotique chez les babouins. D'accord ? Donc, sur cette diapo-là, j'espère vous avoir exposé un peu en quoi la distribution spatiale des aliments influence le patron de compétition alimentaire et le patron social observé, de comportements sociaux observés chez les primates. Si on prend la société despotique, elle est encore plus intéressante que ça. Elle est même plus intéressante que la société égalitaire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en raison du fait qu'il y a des individus qui sont plus forts que d'autres, et bien les individus finissent par se classer du plus fort au moins fort. Et chaque individu est dominant sur celui qui le suit, le plus faible qui le suit immédiatement, et est dominé par celui qui le précède dans la hiérarchie sociale. Donc on a une hiérarchie de dominance linéaire, c'est-à-dire qu'on peut tous les ranger de 1 à n nombre de femelles. Et dans ce contexte-là, les femelles faibles, elles n'ont qu'une seule chance, qu'une seule chose à faire pour tirer leur épingle du jeu, c'est s'allier avec d'autres femelles faibles. Une femelle faible qui a l'idée de s'allier avec une autre femelle faible, elle va être capable de repousser une femelle plus forte et de grimper ainsi d'emprunter l'ascenseur social et d'acquérir plus d'aliments qu'elle partagera avec la femelle avec laquelle elle s'est alliée. D'accord ? Si vous souhaitez partager les gains, est-ce que vous allez les partager avec moi ou avec votre frère ou votre sœur ? Je vous connais, vous allez les partager avec votre frère ou votre sœur. Toujours pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, vous partagez plus de gènes avec votre frère ou votre sœur qu'avec moi. Alors même si je suis très sympa, vous préférez toujours votre frère, votre sœur ou vos enfants. Et c'est ce qui se passe aussi chez les primates, ils préfèrent s'allier avec des apparentés. En plus, les apparentés, on peut leur faire confiance, alors que les inconnus, on n'est jamais trop sûr. Hein. Et ce qui se passe, c'est que dans un tel système, si les femelles grandissent dans un groupe et quittent leur groupe natal à l'adolescence pour aller rencontrer d'autres mâles, si toutes les femelles font ça, elles vont se retrouver dans des groupes où elles n'auront aucun soutien, aucune femelle avec lesquelles elles sont apparentées. C'est pour ça que dans cette société des babouins, les femelles restent là où elles sont nées, pour pouvoir former des alliances, des coalitions, pour pouvoir coopérer avec sa parentèle. D'accord ? Donc vous voyez ici toute une chaîne de conséquences, liste de conséquences, provenant de la simple répartition spatiale des ressources alimentaires. On a fait le lien entre environnement et système social des femelles. D'accord ? Je vous l'explique dans les grandes lignes. Il y a quelques subtilités, il y a quelques espèces chez lesquelles il faut faire appel à un peu plus de connaissances, un peu plus de données. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et si vous retenez juste ça aujourd'hui, juste cette diapo, vous aurez retenu l'essentiel de mon propos. Et les mâles, une fois encore, vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils font là-dedans ? C'est les femelles qui décident de tout ? Eh bien oui, les mâles font ce qu'ils peuvent. Alors ce qui se passe, c'est que les mâles, ils sont là, ils voient des femelles qui vivent en groupe parce qu'elles ont intérêt à vivre en groupe et en plus, elles se débrouillent comme ça pour acquérir un maximum d'aliments. Les mâles s'adaptent si les groupes de femelles sont grands, très grands. Et si en plus les femelles sont reproductivement synchrones, c'est-à-dire qu'il y a une saison de reproduction, qu'elles sont toutes en oestrus, en chaleur au même moment, si c'est le cas, il y a de la place pour plusieurs mâles dans le groupe. Si ce n'est pas le cas, il n'y a de la place que pour un seul mâle. D'accord ? C'est pour ça que chez les gorilles, les femelles sont asynchrones chez les gorilles. En plus de ça, il y a rarement plus d'une seule femelle en oestrus à un moment donné dans le groupe. Les groupes ne contiennent qu'un mâle. C'est parfaitement possible pour un mâle de contrôler son petit groupe de femelles. Chez les babouins, ce n'est pas le cas. Les groupes sont beaucoup plus grands. Les femelles sont synchrones pour des raisons... lié au fait qu'il y a une bonne saison pendant laquelle les aliments sont beaucoup plus disponibles et du coup, elles ont intérêt à mettre au monde leurs enfants à ce moment-là. Et donc, quelques mois avant, elles vont être réceptives, reproductivement réceptives, tout au même moment. D'accord ? C'est pas le cas des gorilles qui vivent dans un environnement beaucoup plus stable, la forêt équatoriale. Il y a des fluctuations saisonnières, mais c'est pas quelque chose de dramatique. En plus, les gorilles, eux, peuvent s'alimenter sur différents types de ressources. Ils ont un régime alimentaire très, très varié, ce qui fait qu'ils souffrent pas tellement des variations saisonnières, contrairement aux babouins. Et voilà. Bon, dans tous les cas, les rapports entre mâles, eux, sont définitivement tendus. Les mâles, ils n'ont aucun intérêt à coopérer et à se partager les femelles. Les mâles, à quelques exceptions près, ils vont avoir des relations de rivalité. D'accord ? Un bel exemple, c'est les gorilles. Vous voyez ici quelques mâles gorilles qui font ce qu'on appelle des démonstrations de force, ce qu'on appelle en anglais les displays. Et vous voyez ici deux mâles qui se battent. Ce mâle-là charge l'autre mâle et il va le toucher, hein, ça va lui faire mal. Si vous avez un autre mâle qui fait une démonstration assez typique des gorilles qu'on appelle le chest beating, frappement de poitrine, qui est très connu évidemment des gorilles, c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens connaissent les gorilles par ce trait-là, n'est-ce pas ? Et au passage, ils se frappent la poitrine main à main, plate et pas les poings fermés comme nous quand on les imite. Voilà ce qu'on appelle le splash display. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Et ici, c'est une charge aussi typique. Alors, j'ai la chance de ne pas être la cible de cette charge. Ça m'est arrivé et c'est peu rassurant, comme vous l'imaginez. Donc voilà, les gorilles se battent un mâle, hein, entre mâles. Mais ce n'est pas tout. Parce que les gorilles, quand ils se battent, les femelles, elles ne vont pas vaquer leurs occupations. Elles restent là et elles regardent. Alors, vous voyez ici un gorille qui fait un splash display, n'est-ce pas? Et il y a deux femelles ici, d'un autre groupe. Donc, il y a un groupe qui appartient, les femelles qui appartiennent au mâle rival de celui-là, qui sont là en train de regarder. Et je vous vois tous en train de lire dans leurs pensées à ces femelles-là. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe. Je dis, oh tiens, il est pas mal. Et voilà ce qui se passe du côté des mâles. Il y a deux choses. D'une part, les mâles se battent entre eux. Et de ce fait, les mâles costauds sont avantagés. Les femelles mettant au monde des mâles costauds ont également plus de petits-enfants parce que leurs enfants auront davantage de partenaires sexuels. Elles auront davantage de belles-filles. D'accord ? Donc, pour les deux sexes, c'est avantageux d'avoir des enfants mâles de forte taille à l'âge adulte. En plus de ça, les femelles, elles vont préférer les mâles les plus grands pour plusieurs raisons. Elles vont les préférer d'une part parce que si vous préférez un mâle grand, il y a des chances que vos enfants soient grands, n'est-ce pas? Et d'autre part, si vous préférez un mâle grand, il va vous protéger également contre les prédateurs, beaucoup mieux qu'un petit gringalet. Et il vous protégera également contre une forme de prédation qui est assez présente, assez importante chez les gorilles, l'infanticide. Les mâles gorilles, s'ils sont seuls ou s'ils vivent en petits groupes et rencontrent un groupe dans lequel il y a de nombreuses femelles, vont au cours des interactions très très agressives ayant lieu entre les deux mâles, tenter et souvent arriver à tuer des enfants de ce groupe-là. Alors pourquoi ils font ça? Ils ne font pas ça parce qu'ils sont méchants, ça n'a rien à voir, ils font ça parce que les femelles qui auront perdu leur enfant vont avoir plus tendance à quitter le mâle qui n'aura pas su les protéger, pour rejoindre le mâle qui a tué leur enfant. Parce que ce mâle qui a tué leur enfant, il leur donnera un enfant très rapidement et sera capable de les protéger également contre d'autres mâles infanticides. D'accord ? L'infanticide, donc le meurtre d'un individu de la propre espèce, ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose de non adaptatif. L'infanticide, on sait que c'est un trait adaptatif, ça présente un intérêt pour les individus. Au niveau de la société, ce n'est pas terrible, évidemment. Si les mâles se décidaient tous ensemble d'arrêter de faire l'infanticide, moi, je serais très content parce que ça me donnerait un peu moins de boulot pour protéger les gorilles de l'impact de la déforestation et des hommes. Et là, ils ne mettent pas, ils tuent leurs semblables de temps en temps. Alors, pas souvent, parce que si le risque est très élevé, ce n'est pas pour ça que le risque est observé. On n'observe pas tellement d'infanticide parce que les femelles, elles ont des comportements qui permettent de limiter l'infanticide. Donc elles vont rester avec leur mâle pendant toute la croissance de leurs enfants, elles ne vont jamais s'amuser à changer de mâle quand elles ont un enfant avec elles, parce que ce serait suicidaire pour l'enfant. Et en plus, les mâles restent à la tête de leur groupe pendant pas mal de temps, ce qui fait qu'ils arrivent à protéger leurs enfants pendant suffisamment de temps. Les infanticides sont très rares dès l'instant où la société des gorilles est relativement protégée et stable. Par contre, si vous mettez des braconniers dans cette population-là, et les braconniers vont commencer à perturber la population, tuer des mâles dominants, les femelles vont commencer à devoir migrer vers d'autres groupes de mâles, d'autres mâles avec leurs enfants sur le dos, qui vont subir l'infanticide. Et vous aurez un deuxième effet négatif lié au braconnage. Bref, petit intermède pour vous dire que les mâles gorilles ont intérêt à être grands, être plus grands que les femelles, et que ces deux raisons, donc le combat entre les mâles et la préférence des femelles pour les mâles plus grands, conduisent à l'évolution du dimorphisme sexuel. D'accord ? Le dimorphisme sexuel, c'est le fait que les mâles sont plus grands que les femelles. D'accord ? Alors, voilà une photo qui illustre bien l'hymorphie sexuelle. Vous avez un mâle, ce mâle-là n'a que deux femelles, elles sont ici, et leurs rejetons sont là, ils sont en train de jouer, et vous voyez le mâle qui est deux fois plus grand que les femelles. Le gorille, c'est une des espèces de primates, la première ou la deuxième espèce de primates ayant le dimorphisme sexuel le plus marqué. On peut le mesurer, je me suis amusé à faire ça. J'ai mesuré plein de mâles avec sur le terrain, avec des appareils qui permettent de mesurer les mâles à distance. Je ne suis pas allé les mesurer juste à côté d'eux, je vous rassure. Ce ne serait pas là sinon. Et j'ai fait un peu plus que mesurer la taille des mâles. J'ai également mesuré un trait morphologique qui est dimorphique, donc qui n'existe pas chez les femelles, qui n'existe que chez les mâles, qui est cette crête qu'on observe ici à l'arrière de la tête des mâles. Alors, n'importe quel paléontologue vous dira que cette crête, elle n'est pas formée d'os, bien que si l'on observe le crâne d'un gorille mâle, on observe une crête sagittale. Vous voyez ici la crête sagittale, c'est une formation osseuse, en forme de crête donc, qui sépare la surface du crâne dans le plan sagittal, donc selon le plan de symétrie de la tête. Donc vous voyez cette crête sagittale, Et ce qui se passe, c'est que cette crête sagittale délimite deux poches dans lesquelles s'ancrent les muscles temporomandibulaires, qui sont les muscles qui font fermer la mâchoire. Plus vous avez une crête sagittale élevée, donc c'est le cas des mâles gorilles par rapport aux femelles gorilles, plus vous aurez des muscles relativement forts, car ces muscles seront extrêmement bien ancrés dans la boîte crânienne, et plus vous aurez de pression à la fermeture de la mâchoire, ce qui est assez avantageux quand vous vous battez tout le temps. Et donc voilà ce qui se passe. Mais ce qui se passe aussi, c'est que cette crête sagittale, elle n'existe, on la voit pas si on touche le sommet de crâne d'un gorille, parce qu'il y a les muscles de chaque côté, donc ça apparaît lisse. Donc cette bosse qu'on voit ici, en fait, c'est une bosse graisseuse. C'est pas une bosse osseuse. D'accord ? Tissu adipeux, on voit ici le crâne en transparence, et le tissu adipeux qui est au-dessus, qui n'a rien à voir avec l'os. Alors voilà, j'ai fait des petites manips, j'ai fait des analyses statistiques, et j'ai pu montrer ainsi que pour un mâle gorille, la probabilité qu'il ait au moins une femelle, c'est-à-dire la probabilité qu'il ne soit pas tout seul dans son coin, dépend de la taille de son corps. Plus il est grand, plus il a de chances de ne pas être tout seul. D'accord ? Et vous voyez ici que les plus petits mâles, donc les mâles qui font 80 cm de long, de l'épaule à la pointe de la fesse, ont seulement une probabilité de 20% d'avoir une femelle, au moins, ou deux ou trois ou plus. Hein. Tandis que les grands mâles, eux, ils sont quasiment assurés d'avoir des femelles. Donc c'est quand même super avantageux. J'ai pu m'exprimer ainsi, pour un mâle gorille, d'être grand, d'être d'une grande taille. Heureusement, c'est un peu moins avantageux pour nous les hommes, et en particulier pour moi. Alors, l'autre chose à regarder, c'est l'autre analyse que j'ai faite. C'est j'ai regardé l'effet de la taille de la crête adipeuse sur le nombre de femelles qu'un mâle reproducteur peut avoir. C'est-à-dire, maintenant, on considère les mâles qui ont au moins une femelle, et on regarde s'ils en ont 2, 3, 4, 1, 10, 20. 20, ça n'arrive jamais. Et donc là, ça varie entre 1 et 11. Et le nombre de femelles augmente avec la taille de la crête adipeuse. C'est-à-dire que les mâles qui ont une crête adipeuse relativement prononcée vont avoir tendance à avoir davantage de femelles. Alors pour ça, il faut qu'ils soient grands et qu'ils aient au moins une femelle. Hein. Dès l'instant où ils ont la taille suffisante, avoir une grande crête sagittale, ça devient très important et très bénéfique. D'accord ? Alors la raison pour laquelle c'est bénéfique, c'est que probablement que ces mâles qui ont un tissu adipeux relativement formé, c'est des mâles qui sont en bonne condition parce qu'ils ont du tissu adipeux. Et la crête sagittale, si vous voulez, est un indicateur de l'état de santé général de l'animal et de son état de force. Voilà, c'est pour ça que ça leur donne un avantage. Et maintenant, dernière partie de cette présentation, qui s'achève très bientôt, je vais vous parler d'une quelque chose qui, je sais, va beaucoup vous intéresser. Je vais vous parler d'un effet collatéral, side effect, comme on dit en anglais, de l'évolution sociale. Alors jusqu'ici, je vous ai expliqué comment les facteurs écologiques, ce qui entoure l'animal, influencent la structure sociale des primates. Je vous ai également expliqué un petit peu en quoi les facteurs écologiques influencent la structure sociale, qui influencent également l'évolution morphologique, le dimorphisme sexuel en particulier, chez les primates. Je vous ai aussi expliqué comment l'environnement peut influencer la structure sociale qui peut à son tour favoriser l'émergence de nouveaux comportements sociaux comme l'infanticide. Je vous ai expliqué cette chaîne de réaction. D'accord ? C'est un petit peu complexe, mais j'ai présenté quelques exemples qui montrent ça. Il y a encore une autre conséquence de l'évolution sociale qui a été brillamment démontrée par un collègue, Robin Dunbar, dans ce papier très célèbre de 1998. Alors, Robin Dunbar, lui, ce qui l'intéressait, c'est de comprendre pourquoi les primates et l'homme, et les grands singes en particulier, on a tous des gros cerveaux. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, je suis persuadé que Michel vous parle de l'évolution de la taille du cerveau chez les hominidés. Et c'est vrai que c'est une tendance. Hein, au cours de l'évolution des hominidés, la taille du cerveau s'est accrue jusqu'à cette même... La taille du cerveau s'est accrue de façon même exponentielle, elle accélère assez relativement rapidement. Dans les dernières centaines de milliers d'années, millions d'années chez l'homme. Et on peut s'intéresser, on peut essayer de répondre à la question, mais pourquoi est-ce qu'on a un gros cerveau ? Alors pour étudier cette question-là, vous pouvez vous amuser à comparer parmi nous ceux qui ont des gros cerveaux, des petits cerveaux, et voir quelle influence ça a. Vous n'allez rien trouver du tout, parce que ça n'a pas de sens de faire cette expérience-là. Par contre, si vous faites une étude comparative, que vous prenez tous les primates, les espèces de primates, vous regardez la taille de leur cerveau et vous regardez leurs caractéristiques sociales et écologiques, peut-être que vous allez trouver des variables qui influencent la taille de leur cerveau. D'accord ? Des variables qui agissent à des échelles évolutives. Échelles évolutives qui agissent à l'échelle interspécifique. C'est pour ça qu'on fait une étude comparative entre espèces. D'accord ? Alors voilà, Robin Dunbar, il a essayé plusieurs trucs, il a procédé un peu en essai-erreur, ce qui entre nous n'est pas la meilleure démarche scientifique, mais ça lui a permis de démontrer assez brillamment quelque chose de très, très, très intéressant. Il a regardé l'effet du pourcentage de fruits dans le régime alimentaire sur la taille du néocortex. Le néocortex, on appelle également le télencéphale, c'est l'essentiel de la masse cérébrale, c'est les deux hémisphères cérébraux qu'on a sur le haut et l'avant du crâne. Donc la proportion du cerveau occupée par ce télencéphale, par le néocortex, pardon, n'est absolument pas corrélée au pourcentage de fruits dans le régime alimentaire. On oublie. Ce n'est absolument pas corrélé non plus à la taille du territoire ou du domaine vital dans lequel évoluent les groupes sociaux en question, les animaux, les espèces sociales en question. Donc ce n'est pas parce qu'on a un plus grand territoire qu'on a un plus grand cerveau, en gros. Et ce n'est pas non plus parce qu'on utilise... On manipule les aliments de façon un peu plus compliquée, avec ses mains, avec sa bouche, etc., qu'on va avoir un plus gros cerveau. Donc visiblement, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un gros cerveau. Eh bien si. Quand vous regardez ce graphe ici, vous voyez une relation linéaire très forte, très marquée, entre la taille du cerveau, du néocortex, des hémisphères cérébraux, et la taille moyenne du groupe social. Si vous êtes une espèce de primate vivant dans un grand groupe social, vous allez avoir un plus grand cerveau. Si vous êtes une espèce primate vivant dans un petit groupe social, vous avez un petit cerveau. Je pense que c'est une assez belle démonstration que le cerveau qu'on a, notre cerveau, n'est pas un cerveau qui sert à faire des iPads ou qui sert à faire des ordinateurs. C'est un cerveau qui sert à gérer les relations sociales avec notre entourage. Et on est particulièrement fort là-dedans. On n'en a pas conscience parce que, évidemment, tout le monde est comme nous autour de vous, mais je vous garantis que si vous nous comparez aux autres espèces, on est extrêmement performant pour ce qui est de gérer les relations sociales. C'est ce qui nous permet de comprendre que l'autre nous comprend, de comprendre que l'autre comprend qu'on le comprend, de pouvoir lui mentir, de manipuler les gens, c'est très avantageux. D'accord ? À ce petit jeu-là, d'ailleurs, je tiens à dire que les femmes sont beaucoup plus performantes que les hommes, au moins pour cet aspect social, donc la gestion des relations sociales dans notre entourage. Les femmes sont bien plus performantes que les hommes. C'est une démonstration assez intéressante. Pourtant, elles ont un cerveau de taille comparable à la taille au cerveau des hommes, évidemment. Alors voilà, ça c'est le même graphe, avec un peu plus de points, puisqu'on a rajouté les grands singes et les lémuriens. Les lémuriens, c'est ces petits primates de Madagascar, qui ne ressemblent pas tellement à des singes. Vous avez sûrement une idée d'à quoi ils ressemblent. Je n'ai pas mis de photo, je suis désolé. Et si on rajoute ces points supplémentaires, on observe toujours cette belle relation entre la proportion du cerveau occupée par le néocortex et la taille moyenne du groupe social. D'accord ? Le cerveau a probablement en grande partie, évolué pour qu'on gère notre environnement social qui est très grand. Alors, ici se trouve le chimpanzé. Et si on rajoutait l'homme, alors je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire, on serait un peu plus loin, juste après le chimpanzé, pas très éloigné. D'accord ? Taille moyenne d'un groupe social chez l'homme, je pense que c'est environ 200, je n'ai pas les nombres en mémoire, c'est environ 200 individus. C'est-à-dire que dans votre entourage, il y a à peu près 200 individus avec lesquels vous gérez vos interactions. Des individus que vous reconnaissez si vous les croisez dans la rue, des individus dont vous vous souvenez si vous ne les voyez pas pendant un moment, c'est à peu près 200 personnes. D'accord ? Donc si vos enfants ont 500 ou 1000 amis sur Facebook, vous pouvez être sûr qu'il y en a les trois quarts qui ne sont pas en fait leurs amis. Parce que ce n'est pas possible, on n'arrive pas à gérer 1000 individus. Votre cerveau ne permet pas de faire ça. Ou en tout cas, à les gérer de façon proche. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce cerveau ? Eh bien, le cerveau, il est là. Il permet de gérer nos relations sociales, mais il permet également de faire d'autres choses que ça. Il est là et il a ensuite pu évoluer de façon à nous permettre l'acquisition de nouveaux traits. Et je vais vous présenter un exemple ici. C'est Ayumu. Ayumu est un chimpanzé qui vit au Japon. Et qui sait faire ceci. Alors, je ne vais pas vous expliquer la règle du jeu, j'imagine. Ayumu joue avec un écran tactile et doit toucher dans l'ordre croissant les chiffres de 0 à 9. Il est plutôt doué. Voilà. Il est fort. Alors, vous allez dire, oui, moi aussi, je peux le faire. Alors, c'est vrai. Vous aussi, vous pouvez le faire. Et moi, je suis à peu près sûr de pouvoir le faire. D'ailleurs, j'ai essayé. J'étais au Japon. C'est pas moi qui ai fait cette vidéo. Moi, j'en ai fait une qui est beaucoup moins de bonne qualité. Mais j'étais là-bas, c'est génial à voir, c'est formidable. C'est un centre de recherche en primatologie qui est à côté de Nagoya. Et ce sont les travaux de Sana Inoue et Tetsuro Matsuzawa, qui est un professeur très connu au Japon. Regardez maintenant la manip. Alors, vous n'avez rien vu. On va rejouer, il prend sa récompense. Dès qu'il touche le zéro, tous les autres chiffres se changent en carré blanc. Ça veut dire, moi, si j'étais lui, j'attendrais 10 secondes avant de toucher le zéro. Hein. Mais Ayumu, c'est un chimpanzé, et les chimpanzés sont bien infiniment plus doués que nous pour ce qui est de cette tâche cognitive. Les chimpanzés ont une mémoire à court terme qui est infiniment meilleure que la nôtre. On a fait la manip avec d'autres hommes, moi j'ai essayé, incapable de réaliser cette chose-là, sauf si j'attends 10 secondes, le temps de mémoriser la position des chiffres. Et c'est vraiment, vraiment très compliqué. Vous avez vu, c'est vraiment une manip sympa. Et en général, j'avoue que je suis un peu hésitant lorsque je lis ou que j'entends les travaux réalisés sur les animaux captifs, parce que je pense qu'ils n'apportent pas autant d'informations que les travaux réalisés sur les animaux sauvages. C'est en général vrai. Dans ce cas particulier, j'avoue que c'est assez parlant et ça a été vraiment une très belle manip, faite sur des chimpanzés qui vivent dans des très très bonnes conditions, je tiens à le dire. Ils ont un enclos qui est gigantesque. La recherche en primatologie au Japon a des ressources incommensurables comparées à nous en France. Et ces chimpanzés sont quand même très, très heureux, très épanouis et vivent dans un environnement social qui est très proche de ce qu'ils auraient dans la nature, on va dire. Et voilà, Ayumu est donc très très fort. Alors là, je vous ai montré que les fois où il réussit. Il réussit 8 fois sur 10, d'accord ? Donc il ne réussit pas dans 100% des cas, il réussit 8 fois sur 10. Et les meilleurs hommes, eux, réussissent également 8 fois sur 10, mais par contre, ils ne réussissent jamais aussi rapidement que les chimpanzés. Donc ils réussissent 8 fois sur 10, mais il faut qu'ils attendent 20 secondes avant de commencer à jouer. D'accord ? Voilà. Alors, je vais vous montrer une autre petite manip. C'est même pas une manip. Là, pour le coup, c'est un travail qui a été effectué dans l'environnement naturel des chimpanzés grâce à une méthode de recherche qui est assez sympa, qui consiste à poster des caméras dans la forêt près d'endroits où on sait que des chimpanzés vont venir. Et on met un détecteur de présence, le même genre de truc que vous avez peut-être sous votre porche si vous avez un pavillon qui allume la lumière au moment où vous rentrez le soir. C'est exactement le même dispositif, ça coûte pas cher, et quand on est primatologue et pas très riche, eh ben on peut se fournir cet équipement-là et planquer des caméras dans la forêt. Et c'est formidable. Ah, pardon. Comme vous allez le voir. Alors voilà, donc les chimpanzés voient la caméra, hein, évidemment, la caméra fait très peu de bruit, mais ils voient que c'est quelque chose qui est pas habituel dans l'environnement. C'est assez rigolo, alors là, on voit un mâle chimpanzé donc totalement sauvage, hein, qui n'a jamais vu d'homme, qui est très curieux. Derrière, c'est une termitière. D'accord, vous aurez peut-être reconnu. Ah, les chimpanzés, ils sont tous là. Là, c'est des mâles. Les mâles sont en général assez... ils ont eu peur. Ils sont très drôles. Voilà. Voilà un autre chimpanzé. Alors lui, voilà. Il s'est trouvé une arme, il s'en prend à la caméra. Sans grand succès, fort heureusement. Les caméras sont fixées dans des gros caissons pour résister aux chimpanzés. De temps en temps, les éléphants les cassent. Mais les chimpanzés, ça va. Voilà. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est l'utilisation d'outils, bien sûr, chez les chimpanzés. Ce chimpanzé est en train de s'en prendre à un nid d'abeilles qu'il détruit à l'aide d'un bâton de poids relativement élevé. Pour récupérer du miel. Les chimpanzés, tout comme l'homme, sont extrêmement friands de miel. Et on utilise toute une série d'outils. Alors, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais il y a plein d'outils différents que les chimpanzés savent utiliser et qui leur permettent d'accéder à ces nids. Et donc, la première chose à faire, c'est évidemment de détruire l'entrée du nid avec ce gros marteau. Alors, celui-là, il est en train de chercher des termites qui vivent sous la terre. Donc, pour les chercher, il sonde avec un bâton jusqu'à ce qu'il trouve les termites, et il pourra ensuite s'en nourrir. Là, on voit un comportement sympa. On voit une mère qui taille un outil. Donc, évidemment, les chimpanzés façonnent des outils. Hein. Ils ont des comportements très évolués, très élaborés, très complexes, si je puis dire. Et elle a façonné un outil, et elle en a donné un à son fils, et elle a gardé l'autre. Alors le fils était là à côté, « Allez, maman, donne-moi l'outil, je ne sais pas si vous avez vu. » Et la mère a cédé l'outil. Voilà, c'est un comportement de partage d'outils qui est également très intéressant à observer. Alors, je vous montre une dernière vidéo. Alors, ces vidéos ont été réalisées par Cricket Sense et Dave Morgan, qui travaillent maintenant à Saint-Louis dans le Missouri, à l'Université Washington, et qui étaient avant en Allemagne. J'ai travaillé en Allemagne pendant 2 ans, et on était collègues là-bas. Et ils sont responsables du projet du triangle de Gualougo, qui est au nord du Congo. Ils ont un site internet que vous pourrez trouver sans trop problème si vous tapez Gualougo. Et c'est congoapes, je crois, .org. Pardon. Et vous trouverez toutes ces vidéos-là sur leur site et d'autres. Donc voilà, on voit ici maintenant l'exemple, le cas d'utilisation typique d'outils par les chimpanzés. Ce chimpanzé-là, il a façonné un outil, mais il ne s'est pas contenté de faire une baguette. Il a ébouriffé l'extrémité de la baguette pour en faire un petit balai, une petite brosse. Je ne sais pas si vous avez vu. Et cette petite brosse, il s'en sert pour aller picher les termites dans la termitière. C'est beaucoup plus efficace que s'y aller avec un bâton tout plat. D'accord ? Essayez de pêcher les termites avec votre brosse à dents, par exemple, c'est très efficace. Et voilà, donc là, il part pêcher les termites. C'est un comportement très presque humain, n'est-ce pas ? Alors, je suis persuadé que nos ancêtres hominidés disparus avaient des comportements semblables. Et j'avoue que j'aurais été très curieux si j'avais pu passer des pièges, des caméras dans cet environnement-là. Si c'était possible, ce serait vraiment formidable. On voit qu'ils utilisent beaucoup leurs dents pour façonner les outils. Ils n'utilisent pas que leurs mains. Alors là, dans le cas de ce chimpanzé-là, il a fait un outil relatif, donc une baguette relativement solide, qu'il utilise au début pour élargir le trou. Il met la baguette dans le trou, il l'élargit comme ça, vous l'avez vu. Ensuite, il a taillé l'extrémité pour en faire une brosse, donc en l'épluchant. Et maintenant, il va à la pêche. Cette carte-là résume tous les outils connus et utilisés par les chimpanzés de différentes populations. Les chimpanzés, il y en a partout, d'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est. De Bosou, en Guinée, c'est les chimpanzés étudiés également par Tetsuro Matsuzawa, la personne qui a fait la manip avec les chiffres. Il étudie également les chimpanzés dans la nature. Et c'est peut-être pour ça qu'il fait des bonnes manips sur les chimpanzés en captivité. La forêt Thaï, ils sont étudiés également là-bas, en Côte d'Ivoire, et également beaucoup en Afrique de l'Est. À Gombe, c'est le site de recherche qui a été créé par Jane Goodall, que vous connaissez tous, j'imagine. Et ce qu'on a observé, c'est que le répertoire d'outils utilisés par les chimpanzés dans ces différentes populations est différent. Vous avez par exemple à l'Ouest, dans ces deux populations-là, les chimpanzés sont capables de craquer des noix en utilisant des pierres. Donc, ils vont utiliser 2 pierres ou 3 pierres parfois. Une pierre qu'ils vont poser sur le sol qui sert d'enclume, une pierre qui va servir de marteau, ils posent des noix de palmiers, différents palmiers qui produisent des noix, de pandas, sur la pierre, et ils vont l'éclater pour pouvoir manger la fève, ce qui est à l'intérieur du noyau. Seuls les chimpanzés de l'Ouest savent faire ça, les chimpanzés de l'Est ne savent pas faire ça. D'accord ? Donc les chimpanzés de cette population-là savent le faire, ceux qui sont ici ne savent pas le faire. Et ils savent le faire depuis longtemps, on a même trouvé des restes fossiles de pierres utilisées par les chimpanzés, qui gardaient trace évidemment de cette utilisation en tant que marteau, qui datent de plusieurs milliers d'années. Donc en creusant, on a bien montré que les chimpanzés étaient capables d'utiliser ces outils, probablement avant qu'il y ait des hommes des ethnies actuelles dans cette zone-là. Alors je ne sais pas s'ils ont appris ça de nos ancêtres il y a très longtemps, ou s'ils ont appris par eux-mêmes, je pense qu'ils ont... appris par eux-mêmes, sinon ça aurait disparu. Ce trait aurait probablement disparu dans quelques générations. C'est pas capable de l'acquérir régulièrement. Et par eux-mêmes. Voilà. À l'Est, ils utilisent d'autres outils. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas craquer des noix qu'ils sont plus bêtes que les autres. Ils ont d'autres outils qu'ils savent utiliser. Alors, ce que je cherche à vous montrer, c'est qu'il y a une diversité qui n'est pas génétique. L'utilisation d'outils, ce n'est pas codé génétiquement. Ce n'est pas parce que vous savez utiliser un marteau que si vous me donnez votre enfant à la naissance et que je le garde sans lui montrer un marteau pendant toute sa vie, à l'âge de 20 ans, je lui donne un marteau, il ne saura pas utiliser le marteau. C'est quelque chose que vous transmettez de façon non génétique. C'est un trait transmis, variable, et qui influence la survie de vos enfants, parce que celui qui utilise un marteau, il va avoir, donc, dans le cas des chimpanzés, davantage de fruits, très énergétiques, il va se porter mieux, et il aura une plus grande descendance. Donc c'est un trait non génétique, mais qui est héréditaire, variable, et qui influence le succès reproducteur. Il offre donc prise à la sélection naturelle, Et c'est pour ça qu'on observe ce qu'on appelle la sélection culturelle, qui est une forme de sélection naturelle. Ce n'est pas différent. Mais voilà. Donc, je voulais finir sur cet aspect-là. L'évolution cognitive a permis, chez les préhominidés, l'évolution culturelle, très bien illustrée chez les chimpanzés. Et j'aimerais conclure par une petite réflexion. Que nous enseignent les primates ? Eh bien, j'espère qu'en regardant cette présentation, j'étais un petit peu long, je suis désolé, j'espère que vous avez appris que pour comprendre la société des hommes, il faut prendre un petit peu de distance. Nous ne sommes pas exceptionnels dans l'évolution, loin de là, il y a une différence entre nous et les autres primates, mais il y a seulement une différence de degré, pas une différence de nature. On a une société qui est plus complexe, mais on n'a pas une société qui est différente. Quasiment tous les différents traits qu'on observe, culturels marquants qu'on observe chez nous, on les observe également chez les primates, à des degrés inférieurs parfois, à des degrés supérieurs parfois, vous avez vu la petite manip sur les chimpanzés. D'accord ? Et j'ajouterais que une remarque globale sur la recherche que je fais et que bon nombre de mes collègues en France et ailleurs font, que comme en paléontologie, il est crucial de faire la recherche de terrain, de collecter les données sur le terrain. C'est en observant les animaux dans leur environnement qu'on en apprend plus sur eux. La recherche dans le zoo ne mène, je dirais pas nulle part, mais elle ne mène pas à grand chose. Je n'encourage en général pas les gens qui sont intéressés par les primates, par les grands singes, à aller les observer dans des zoos. Ils apprennent autant que si vous étiez sociologue et que vous vouliez étudier les hommes en allant dans les prisons. D'accord ? Vous n'apprendriez pas grand-chose. Il faut aller dans la nature. Et c'est possible. En plus, maintenant, il y a des avions, il y a des compagnies touristiques qui permettent même aux communs des gens qui sont non-chercheurs, qui sont non-spécialisés, d'accéder à ces sites de recherche parfois et d'observer avec les chercheurs les animaux pendant peu de temps. Et ça vous coûtera très cher, je ne vous le cache pas. Mais c'est possible. Donc voilà, si vous voulez voir un jour des chimpanzés craquer des noix ou utiliser des outils, vous pouvez vous rendre en Ouganda. Vous ne les verrez pas craquer des noix, mais vous les verrez peut-être utiliser des outils. Et c'est fascinant. Moi, je l'ai fait en tant que touriste déjà, hein, ça m'est arrivé. Je n'ai pas fait que... Moi, mon sujet de recherche, c'est les gorilles, hein, principalement. Alors, quand je vais observer des chimpanzés dans d'autres populations, eh ben, j'y vais en tant que touriste si je ne connais pas de chercheurs sur place. Et voilà, donc je ne peux que vous engager à aller découvrir les grands singes par vous-même en Afrique. Et j'ajouterais qu'en protégeant les primates, voilà une petite remarque sur la conservation, la protection des primates. En protégeant les primates, on protège ceux qui peuvent nous en apprendre le plus sur nous-mêmes. D'accord ? Donc finalement, on protège un savoir futur qu'on acquérira sur nous-mêmes. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on doit protéger les forêts tropicales et les milieux tropicaux en général, les espaces naturels. Et voilà une raison de plus. Alors je vous remercie pour votre